littérature,
cybernétique,
avenir,
prospective,
science-fiction,
liberté,
utopie.
We can face any future.
Any future. Any future.
Le podcast des Utopiales. Utopiales 2021. Simuler le vivant. Mathieu Montès.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Là, je suis ravi d'être là pour cette l'expérience ratée de l'année dernière, on a réussi à se lancer cette année, donc c'est super. Donc je suis ravi de vous voir tous ici pour cette présentation autour de dans le contexte des universités éphémères et utopiales. Donc moi je suis Mathieu Montès, comme c'est écrit là, je suis professeur d'université au Conservatoire National des Arts et Métiers à Paris, et donc je dirige une équipe de modélisation moléculaire et de drug design. Donc, l'équipe, on a un petit logo rigolo qui s'appelle M2D2, et dans un laboratoire qui s'appelle Génomique, Bioinformatique et Chimie Moléculaire. Et donc aujourd'hui je vais vous parler, on va dire, de comment on représente des molécules, comment on représente les constituants, les objets du vivant, et un petit peu de modélisation, et puis un petit peu de visualisation. Et puis avec quelques passerelles vers le jeu qu'on a pu faire. Donc voilà, l'idée c'est, s'il y a un truc que vous ne comprenez pas du tout, vous n'hésitez pas, vous levez la main, on essaie d'en discuter. Donc le but c'est que... Voilà, c'est que vous repartiez avec quelque chose, quoi. Donc, si vous comprenez rien tout le long, c'est nul, quoi. Donc, l'idée, c'est, je dirais dans un premier lieu, c'est déjà d'avoir une notion. Enfin, je pense que ça, c'est important, des ordres de grandeur des choses. Globalement. Donc, je pense que le mètre, tout le monde voit à peu près ce que ça fait un mètre, je pense. Donc après, ce qu'il faut voir, c'est que l'infiniment petit, faut pas déconner, mais on va dire dans le petit, et donc dans le monde microscopique, on va dire, ou nanoscopique, en fait, on est dans une subdivision du mètre, d'accord. Et je pense que c'est important, en fait, d'avoir une idée, par exemple, que les puissances de 10, ça va? Ouais. Ouais. Ok. Donc oui, parce que du coup, si les puissances de 10, ça va pas, c'est compliqué. Donc, si les puissances de 10, ça va, l'idée, c'est d'avoir quand même en tête que voilà, un atome, l'ordre de grandeur de diamètre d'un atome, c'est l'ordre de l'angstrom, donc c'est le dixième de nanomètre, d'accord ? Donc 10-10 mètres. Qu'une protéine, par exemple, il y a des grosses protéines, il y a des petites protéines, mais bon, l'ordre de grandeur de la taille d'une protéine, c'est la dizaine de nanomètres. Que l'ordre de grandeur de taille d'une cellule, par exemple, si on prend des toutes petites cellules, on prend par exemple des staphylocoques, des petites bactéries, un staphylocoque, ça fait un micromètre. Et puis des cellules un peu plus grosses, c'est plutôt 10 micromètres. D'accord ? Donc, du coup, si une cellule, ça fait 1 à 10 micromètres, des protéines, c'est très petit dans une cellule. D'accord ? Et les atomes dans une protéine, on le voit là, si vous avez vous voyez la petite représentation là de la protéine en surface là, que je vous ai mise. Bon, globalement, les boules rouges et les boules bleues foncées, c'est la taille d'un atome. D'accord ? Il y a une convention de coloration, on dit CPK pour. C'est la première lettre des noms des gens qui ont contribué à la coloration. Et du coup, dans la convention qu'on utilise en visualisation, en modélisation moléculaire, enfin je dirais en mécanique moléculaire en général, le rouge c'est l'oxygène et le bleu foncé comme ça c'est l'azote. Et donc si on passe après en charge, contrairement à ce qui se fait en électricité, en électrostatique, le rouge c'est négatif et le bleu c'est positif. Pour ceux qui ont fait du magnétisme, c'est l'inverse. Voilà, vous ne trompez pas. Pour nous, c'est différent. Et le jaune, là, vous avez une boule jaune, c'est le soufre. Et après, globalement, le bleu clair, en fait, c'est plutôt une convention. C'est-à-dire que pour le carbone, on choisit ce qu'on veut. Comme ça, on peut différencier les objets. Comme on a des objets, le constituant principal, c'est le carbone. Ça permet de différencier les objets, du coup, parce que comme le gros de la couleur, c'est le carbone, on met la couleur qu'on veut. Et pour les autres atomes, on a des couleurs définies. D'accord ? Donc là, j'ai décidé là, de mettre du cyan, une sorte de bleu clair, quoi. Et du coup, ça pourrait être du vert, ça pourrait être du autre chose, ça pourrait être du rouge, mais du coup, c'est chiant de différencier le rouge que j'aurais choisi avec le rouge de l'oxygène, donc je ne le fais pas. Et là, un bleu très clair, du coup, ça contraste quand même avec le bleu consacré, on va dire, pour la couleur de l'azote. Donc ça va, les ordres de grandeur de taille, c'est bon ? Ok. Donc maintenant, on va faire les ordres de grandeur de temps. L'idée, tout ça, c'est important parce qu'en fait, quand on fait de la simulation, à la fin, on va simuler un certain temps avec un pas de simulation, c'est-à-dire que chaque étape de calcul, ça va être une certaine durée de temps. Et du coup, d'avoir une idée du temps que prennent les choses, ça donne une idée du temps des trucs qu'on peut simuler. C'est-à-dire que si, par exemple, je veux simuler, le dépliement d'une protéine, je rentre déjà un peu dans le détail, mais on reviendra après. Mais si je veux simuler le dépliement d'une protéine ou le repliement d'une protéine, par exemple, que c'est un phénomène qui est de l'ordre de la seconde, que un pas de temps, c'est 10-15 secondes, vous imaginez le nombre de pas de temps qu'il faut que je fasse pour avoir une chance de peut-être voir ma protéine se déplier. D'accord ? C'est de l'ordre de 10 puissance 15, c'est beaucoup. Donc, même si je simule beaucoup, je fais des milliards d'étapes, c'est 10 puissance 9, d'accord ? Donc, du coup, on n'y est pas. Il faut que je fasse des millions de fois des milliards d'étapes. Donc, du coup, voilà, faut vraiment avoir cette notion-là, c'est très importante, de l'ordre de grandeur de temps que prennent les choses, si derrière, en simulation, on compte les observer. Sinon, on est très naïf et... Bon, même si on est très naïf, hein, je ne dis pas du tout on est très naïf. On a une vision extrêmement naïve des choses et une compréhension extrêmement partielle de l'ensemble de ces phénomènes. Mais alors déjà, si on a une connaissance partielle et qu'on est très naïf, si en plus on fait des approximations énormes et qu'on se trompe de 10 ordres de grandeur, c'est compliqué quand même. Voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir quand même une notion un peu des choses, quoi. Donc déjà, dans les ordres de grandeur de taille, tout à l'heure, on a vu les ordres de grandeur de taille des différents constituants du vivant, les protéines, les cellules, les atomes, etc. Puis on va voir maintenant pour les molécules, un peu le nombre d'atomes que ça prend. Bon, l'eau, je pense que ça va, tout le monde sait. L'eau, ça fait 3 atomes, ça va. Je pense que c'est établi. Enfin, c'est établi et, on va dire, c'est de la connaissance commune. On sait tous ça, je pense. Bon, une paire de bases dans l'ADN, c'est à peu près 30 atomes. Je parle toujours d'ordre de grandeur. Bon, pour une paire de bases, ça ne change pas beaucoup entre les différentes bases. Mais par exemple, pour une protéine, il y a des petites et des grosses protéines. Donc 10 000, c'est ordre de grandeur. Il y a des petites protéines qui font un millier, quelques milliers d'atomes, et des très grosses protéines qui font 50 000, 80 000 atomes. Mais l'ordre de grandeur, c'est la dizaine de milliers. D'accord ? Le ribosome qui s'occupe de la... d'un phénomène important qui est la traduction, donc qui transforme les ARN messagers. Je ne sais pas si ça vous parle, ces trucs-là, mais globalement, dans le génome, il y a de la transcription qui est faite. Donc la transcription, c'est un mécanisme qui transforme l'information du génome qui est sous forme d'ADN, globalement, en un bout de l'ADN qui est transformé en un bout d'ARN, qu'on dit messager, c'est une forme d'ARN particulière. Et ce bout d'ARN, il est ensuite traduit à l'aide du code génétique. Vous avez peut-être vu ça, il y a trois lettres, ça fait une lettre. Et les trois lettres du code génétique, c'est des bases azotées, les paires de bases qu'on voit là. Et une lettre derrière, c'est les acides aminés qui constituent les protéines. Et donc on part d'un alphabet de 4 lettres pour les acides nucléiques. Alors ce n'est pas les 4 mêmes lettres en fonction des types d'acides nucléiques, mais globalement, pour l'ADN, c'est ATCG, pour l'ARN, c'est AUCG. Et on part de 4 lettres, et on passe de cet alphabet de 4 lettres à un alphabet de 20 lettres pour les acides aminés naturels. Il y en a d'autres qu'on peut modifier, mais globalement, les acides aminés naturels, il y en a une vingtaine, quoi. 20. Et donc le code génétique, il fait le lien entre les trois lettres et le 1 lettre. Et donc le ribosome, il fait ça. c'est son boulot, de faire la traduction. Et puis le ribosome, c'est un gros machin qui en fait combine plusieurs protéines. C'est un gros complexe avec plein de protéines. Donc voilà, ça fait en gros 250 000 atomes, le ribosome. Les structures qu'on a du ribosome, elles font 220, 230 000. Donc l'ordre de grandeur, c'est 250 000. Voilà. Et puis le génome d'une bactérie, alors j'ai mis 50 millions, mais globalement, c'est toujours pareil, ça dépend. Ça dépend des bactéries. Mais ça vous donne une idée. Voilà, c'est... je crois que colis, c'est 4 millions, de paires de base. Bon, voilà, 4 millions x 30, ça fait 120 millions. Donc voilà. Mais ça dépend des organismes. Il y en a qui ont des petits génomes, d'autres des grands génomes. Mais l'ordre de grandeur, toujours pareil, c'est la dizaine de millions. D'accord ? Ça va ? Ok. Donc maintenant, les ordres de grandeur de temps. Oui, ça fait un peu catalogue, je suis désolé. Mais je pense que c'est important de faire une petite... je fais un petit rappel au début. Comme ça, après, ça sera plus facile... Quand on parlera des notions, après, ce sera plus simple. Donc, la femtoseconde, ça vous parle ? Femto, comme... non. Donc, la femto, c'est 10-15. Pico, c'est 10-12. Nano, c'est 10-9. Micro, c'est 10-6. Milli, c'est 10-3. Milli, normalement, c'est bon. Ouais. Normalement, les millimètres, normalement, vous faites ça, normalement. Et les millisecondes aussi, normalement, c'est bon. Donc voilà, donc femto, ça va jusqu'à 10, on va dire, on va jusqu'à 10-15, après c'est vraiment pas beaucoup. Les vibrations des ondes, c'est vraiment très petit. Enfin, l'idée d'une vibration des ondes, c'est deux atomes liés par une liaison, et ça vibre. Voilà. Donc c'est important, mais quand on simule des grosses molécules, bon, la vibration des ondes, c'est pas le mouvement le plus intéressant qu'on a envie de regarder. On a envie de voir des trucs, je dirais, de plus grande envergure, de plus grande ampleur, des mouvements de plus grande ampleur. Et du coup, par exemple, bon, des plissements de sucre, non plus, c'est pas fascinant, mais voilà, les sucres, vous savez, c'est des molécules cyclisées, et puis elles peuvent se plier, elles ont plusieurs formes. Donc le plissement d'un sucre, c'est de l'ordre de la picoseconde, le fait qu'un sucre, il passe d'une forme toute plate à une forme plissée, comme ça. Mais voilà, c'est pas fascinant non plus. Par contre, les mouvements de domaine, les mouvements, les courbures de... La courbure de molécules un peu étendue et tout, ça c'est intéressant, et c'est ce genre de choses qu'on va regarder en simulation. Et du coup, ça demande quand même des temps de simulation plus longs. Et je vous disais tout à l'heure, l'ordre de grandeur d'un pas de simulation, on est toujours dans l'ordre de grandeur de la femtoseconde, donc ça fait beaucoup de pas de simulation à chaque fois. Donc du coup, ça demande d'avoir des méthodes de calcul qui vont assez vite. C'est-à-dire qu'un pas de simulation, ça ne prenne pas 3 semaines, sinon on n'est pas rendu. Et on a eu une grande amélioration aussi ces dernières années dans le calcul parallèle. Donc, ce qui permet du coup, globalement, ce type de calcul-là, on va voir après les calculs de dynamique et de calculs d'énergie, globalement, c'est des trucs qui se parallélisent bien maintenant. Du coup, on peut envoyer ça sur des architectures de calcul parallèles, comme par exemple les cartes graphiques. Vous avez sûrement entendu parler de ça, au moins pour ceux qui font du jeu vidéo. Et les cartes graphiques, donc il y a beaucoup de cœurs de calcul, une mémoire partagée, donc du coup, ça permet comme ça de charger le système en mémoire et en fait de répartir de calcul dans les différentes zones de l'espace sur les différents cœurs de calcul de la carte graphique. Et sur les très très grosses cartes graphiques, il y a plusieurs dizaines de milliers de cœurs de calcul, donc on peut vraiment paralyser très largement et gagner beaucoup de temps. Du coup, on accède à des temps de simulation qui étaient complètement inaccessibles il y a de cela 5 ans ou il y a de cela 10 ans. Bon, ça, on va en reparler après. Mais l'idée, voilà, ça vous donne un peu une idée des ordres de temps, c'est aussi important, parce que derrière, quand on fera de la simulation, les ordres de temps, c'est important. Ouais. Attends. Ouais. Alors, ouais, transcription, donc c'est le fait de transformer l'ADN en ARN, tu sais. Et 50 NT, c'est 50 nucléotides. Donc c'est le nombre de nucléotides qui sont transcrits en... Alors pour le coup, comme on passe, c'est par 3. Donc, mais c'est 50 nucléotides par seconde. D'accord ? Donc quand il y a 1 million de paires de bases, c'est faut diviser 1 million par 50, ça donne une idée du temps que ça prend. Mais voilà, en secondes. Mais voilà, 50 nucléotides par seconde, c'est une moyenne, ça dépend des systèmes déjà. Les eucaryotes, c'est plus long que les prokaryotes. Les eucaryotes, c'est les ceux où le génome est encapsulé dans un noyau. Et les prokaryotes, c'est ceux où le génome n'est pas encapsulé dans un noyau. Donc les bactéries, par exemple, c'est des prokaryotes. Quoi. Ouais. C'est pas souvent, c'est tout le temps, je pense. Mais je ne suis pas spécialiste des bactéries. Mais à ma connaissance, c'est, on va dire très très souvent, voire tout le temps, des prokaryotes. Et nous, par exemple, on est des eucaryotes. On est des cellules avec des noyaux. Voilà. Alors, c'est bon, je peux avancer ? Ça va ? Ouais. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu des images comme ça. L'idée de cette image-là, c'est une peinture à l'huile faite par un peintre que j'aime bien qui s'appelle David Goodsell, qui est biclassé, peintre cristallographe. Donc en fait, il fait son travail au Scripps à San Diego, donc il y a un gros institut de recherche où ils font plein de choses, de la biologie, de la physique et tout ça. Et donc David Goodsell, au départ, il est cristallographe, il fait aussi de la simulation. Et donc ce qu'il fait en cristallographie par rayon X, c'est une méthode pour obtenir les structures de protéines. D'accord, c'est une méthode physique qui permet de le faire. En gros, il faut faire des cristaux avec les protéines. Donc on fait une solution concentrée de protéines, on essaie de faire des cristaux avec. Donc la cristallisation, c'est un truc qui n'est pas forcément très facile. Si ça cristallise, donc on est content. On prend les petits cristaux, on les met dans une source de rayons X, donc dans un canon qui envoie des rayons X. Et à partir de l'analyse du cliché de diffraction, on va pouvoir reconstruire la structure en tout cas l'enveloppe, ce qu'on appelle la densité électronique, donc c'est la forme que fait les nuages d'électrons dans l'espace, globalement de tous les atomes de l'objet. Et ensuite, on essaie de modéliser dans ces formes où sont les atomes, qui est où. On essaie de trouver la réponse à qui est où. Et comme ça, on part de l'enveloppe et on construit la structure. Donc, c'est ce qu'il fait dans son travail. Et puis, comme il aime bien la peinture, du coup, il peint les protéines. Donc là, en fait, il a fait une représentation. Ouais, d'ailleurs, c'est rigolo. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est ? Ouais. Ouais, bravo. Ouais, 20 sur 20, bravo, félicitations. Donc effectivement, c'est la membrane d'un globule rouge, donc la membrane en violet. Vous connaissez la protéine principale qui constitue l'intérieur d'un globule rouge, je pense. Souvent, elle assimile avec le sang. Ouais, l'hémoglobine. Ouais. Donc vous avez des petites molécules d'hémoglobine, ces espèces de petits trucs rouges qui sont dans la partie rouge. Donc vous voyez, l'hémoglobine, c'est une protéine. Et donc vous voyez la taille d'une protéine par rapport à la taille de la membrane, par rapport à la taille du globule rouge. Globalement, les rapports d'échelle sont OK. David Goodsell, il connaît son métier quand même. donc les rapports d'échelle sont OK. Vous avez la membrane du globule rouge avec les protéines membranaires qui sont enchâssées dans la membrane. Et puis la partie jaune. Alors tout ça, ça n'a pas de couleur en vrai. Parce que comme c'est nanoscopique, avec la lumière, on ne peut pas voir. Donc du coup, comme on ne peut pas voir avec la lumière, ça n'a pas de couleur. Donc les couleurs, on les rajoute pour voir quelque chose. sinon, c'est compliqué. Puis, du coup, esthétiquement, c'est quand même plus sympa d'avoir des couleurs. Et puis, on peut associer de l'information à la couleur. Là, l'information, c'est quels sont les constituants. Tout à l'heure, je vous disais, l'information, c'est quels sont les types d'atomes. Et ça peut être l'information, c'est quelle est la charge. Ou ça peut être quel est le caractère hydrophobe, plus ou moins, j'aime plus ou moins l'eau. Donc tout ça, on peut l'encoder avec de la couleur. Donc la couleur, elle nous sert à représenter de l'information. Et la représentation, on va le voir tout le long, je vais dire ça 1000 fois, mais on va commencer par le dire déjà une fois, la représentation, c'est un enjeu essentiel. D'accord. Donc du coup, le jaune, c'est le plasma du sang, et puis donc on a les constituants dedans, vous avez... d'espèces de gros trucs ronds, là, qui au milieu, c'est des lipoprotéines, le LDL, là, peut-être vous connaissez, HDL, LDL. Vous avez des IgM, là, l'espèce de grosse couronne au milieu, là, c'est une IgM, c'est des anticorps. Vous avez des IgG, vous voyez l'espèce de petits Y là, qu'on voit un peu partout. Vous avez de l'albumine, vous avez du fibrinogène, l'espèce de trait, là, comme ça. Ça, c'est du fibrinogène. Donc tout ça, voilà, c'est les constituants du plasma. Avec globalement la tête qu'ils ont en vrai en cristallographie au rayon X. Parce que tous ces constituants-là, c'est soluble globalement, parce que c'est soluble dans l'eau. Parce que globalement, le plasma, c'est de l'eau avec des trucs dedans. Et ces trucs dedans sont solubilisés, parce que vous ne les voyez pas quand vous regardez votre sang, par exemple. Enfin, ou le plasma quand vous l'avez sorti. Du coup, comme c'est soluble. Alors, je fais un petit raccourci, mais souvent les trucs solubles peuvent cristalliser. En changeant un peu les conditions de sel, etc., on arrive à faire cristalliser. Donc c'est cristallisable, donc on peut faire de la cristallographie au rayon X avec, donc on peut avoir la structure. Et en fait, tous ces trucs-là, globalement, on arrive à avoir la structure. Donc voilà, David Goodsell, il fait ça. Et j'aime bien son boulot, et donc je vous conseille, hein, si vous avez envie de voir des représentations du vivant un peu sympas comme ça, il fait plein de peintures, il a fait des livres, d'illustrations, et puis il a fait aussi des outils en ligne pour faire de l'illustration. Donc c'est open source, c'est gratuit. Allez-y, ça vaut le coup, c'est sympa. Donc j'aime bien son boulot, à David Goodsell. Alors oui, et l'information derrière cette image aussi, c'était le côté dense. Et ça, c'est peut-être un truc que vous n'avez pas vu jusque-là. C'est vrai que quand on regarde des... Enfin, vous avez tous fait, je pense, j'imagine, à l'école ou à l'école slash collège slash lycée, pour ceux qui ont fait collège-lycée, ou l'école, ou probablement, j'imagine, on fait parfois des observations au microscope optique. Je sais pas, des pelures d'oignons. Vous avez regardé probablement des cellules déjà. Et quand vous regardez des cellules, si vous regardez des cellules eucaryotes, vous voyez éventuellement avec des colorations de contraste et tout, vous allez voir les constituants de la cellule. Le noyau, par exemple, vous faites regarder le noyau, etc. Mais au microscope optique, vous avez beau zoomer, vous voyez pas ça. Parce que c'est trop petit. Et même si vous mettez la plus grande loupe du monde, les plus grandes loupes, la combinaison des plus grandes loupes du monde, vous verrez quand même pas ça. Donc même avec les loupes qu'il y a sur Hubble ou sur les grands télescopes et tout ça, vous verrez toujours pas ça, donc ça sert à rien d'essayer, parce que c'est trop petit. Donc du coup, parce que à la fin c'est nos yeux qui regardent, nos yeux c'est des récepteurs de lumière, la lumière ça marche pas, pour regarder ça, il faut utiliser d'autres rayonnements, c'est pour ça qu'on fait de la microscopie électronique, des rayons X, donc des rayonnements avec des longueurs d'onde plus petites, qui permettent du coup de voir les atomes, globalement, de voir les atomes, au moins les molécules. Et là typiquement on voit pas, donc en fait souvent... On a l'impression que ces trucs, c'est les constituants des cellules et tout ça, ça flotte dans de l'eau comme ça, et puis qu'il n'y a pas grand-chose, quoi. Qu'on a un noyau qui est comme ça, il est bien, il est au milieu de rien, enfin au milieu de l'eau, voilà, comme s'il était tout seul dans la mer globalement. Mais on se dit pas, peut-être dans la mer il y a des trucs. Et en fait, la mer c'est juste un truc hyper dense, c'est un milieu hyper dense avec plein de protéines dedans, et globalement, voilà, c'est plutôt comme ça. Donc faut imaginer le milieu intérieur, on va dire, comme une soupe de pois très dense, plutôt que comme un liquide limpide avec rien dedans. Voilà. Il faut penser comme ça. Du coup, ça ouvre. Moi, c'était très dur, hein, quand j'ai fait ma formation. C'est-à-dire que globalement, mon métier, c'est faire de la modélisation pour trouver des médicaments, des molécules thérapeutiques et tout ça. Et puis on se dit, voilà, il faut que tu fasses des molécules spécifiques de la cible thérapeutique et tout ça. Puis quand on réfléchit que finalement la molécule, on la met là-dedans, pour qu'elle trouve sa cible, c'est pas facile. Donc l'enjeu, en fait, c'est un vrai enjeu difficile, compliqué, c'est un challenge, on va dire. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de se rappeler que le milieu intérieur, c'est un milieu complexe, c'est un milieu dense. Et le dense, je pense que c'est un terme important, et si vous devez vous rappeler d'un truc en partant, c'est que le milieu intérieur, c'est dense. Je pense que ça, c'est... Pour moi, c'est un enjeu, je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Alors après, la représentation des molécules, je vais pas rester longtemps là-dessus. S'il vous plaît, ne vous mettez pas à pleurer et tout. Globalement, voilà. L'idée, c'est de se dire quel niveau de la représentation, donc c'est essentiel, je le dis une deuxième fois et je vais le dire encore mille fois, ça dépend de ce qu'on veut voir. Et globalement, si j'ai envie de faire de la chimie, donc la chimie, c'est casser des liaisons, en faire d'autres. C'est ça la chimie. Je synthétise beaucoup, mais en gros, c'est vraiment ça la chimie. J'ai des systèmes avec des atomes, je veux faire des liaisons, casser des liaisons, je fais de la chimie. Pour faire de la chimie, il faut faire du quantique. C'est-à-dire qu'il faut représenter les molécules en mécanique quantique, c'est-à-dire séparer les noyaux des électrons, parce que pour faire de la chimie, il faut représenter où sont les électrons. Parce que où sont les électrons, c'est là où sont les liaisons, globalement. Enfin, là où ils sont plus souvent, c'est là où il y a les liaisons. Donc si on ne représente pas les électrons et qu'on représente des ressorts, ce qu'on va voir après, ben, on ne fait pas de chimie, on ne les casse pas les ressorts. Donc du coup, pour casser et former des liaisons, il faut faire de la quantique. La quantique, l'ordre de grandeur, des tailles de systèmes en quantique qu'on peut simuler, même avec des ordinateurs qui vont vite. La centaine, le millier d'atomes. Du coup, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, pour faire des gros objets biologiques, ce n'est pas possible. Donc voilà, on oublie, terminé. Voilà, la dynamique en quantique, c'est la nanoseconde. On peut faire un peu plus, mais globalement, la centaine, le millier d'atomes, la nanoseconde, on est cuit. Voilà. Donc, il y a des gens... Alors, vous allez me dire, oui, il y a la QMMM. La QMMM, c'est faire des bouts en quantique et des bouts en pas quantique. Ça marche. Ça marche bien. On arrive à faire des trucs. On simule typiquement les enzymes comme ça. Ça marche très bien. Le problème, c'est à la frontière entre les deux, entre les deux représentations. C'est-à-dire entre la partie quantique et la partie pas quantique. Comment on gère l'interface, c'est pas évident. Et on est toujours coincé. Voilà, c'est toujours... Si vous voulez embêter quelqu'un qui fait de la QMMM, vous lui dites, alors comment ça se passe à la frontière? Et il va être embêté. Parce que c'est toujours embêtant. Donc, en mécanique moléculaire, moi je suis plus spécialiste de mécanique moléculaire, on dit tant pis pour les électrons, tant pis pour les noyaux, tout ça c'est des boules colorées. Et on est très content comme ça. Donc plutôt que de dire, voilà, il y a des électrons, des nuages électroniques, même si c'est plus vrai, et c'est mieux si on pouvait faire comme ça, mais si on veut simuler des gros objets, ben on ne peut pas. Donc on fait autrement. Et le autrement, c'est on fait des boules colorées. Donc globalement, des boules avec une masse et une charge, globalement. Et donc du coup, il n'y a pas d'électrons, du coup, il n'y a pas de chimie. Mais par contre, on peut faire des gros systèmes. Et quand je dis des gros systèmes, là, récemment, on fait des simulations, millions d'atomes, 10 millions d'atomes. Ça coûte des moyens de calcul, on ne fait pas ça tous les matins, etc. Mais globalement, ça se fait. C'est-à-dire que le million d'atomes, c'est accessible, et c'est accessible, c'est faisable. Moyennant les moyens de calcul, on peut le faire. Et en dynamique, on peut faire de la microseconde, on peut faire de la milliseconde, il y a des simulations millisecondes, millions d'atomes, donc ça se fait. Le record, à ma connaissance, bon, après, on est dans le concours de qui va le plus loin, mais globalement, le record en taille de système que je connais, c'est milliards d'atomes. C'est un gène entier dans l'eau, simulation d'un gène dans l'eau. Donc ça a été publié il y a 2 ans maintenant. C'est un très joli papier dans JComputeChem du supercomputer de Los Alamos, qui est un des gros supercalculateurs américains. C'est 6 mois de calcul sur tout le supercalculateur de Los Alamos. Et ils ont fait milliards d'atomes. Ils ont fait millisecondes, milliards d'atomes. Donc c'est possible. Alors là, c'est avec des très très gros moyens. Mais du coup, ça donne une idée de jusqu'où on peut aller, et donc du coup ce qu'on peut faire aussi avec des moyens plus conventionnels. En tout cas, maintenant, sur des gros systèmes, on fait de la dizaine de nanosecondes par jour. Ça vous donne à peu près une idée. Sur l'ordre de grandeur, avec des cartes graphiques de jeu actuelles, on fait de la dizaine de nanosecondes par jour sur des systèmes 100 000 atomes, quoi. Donc ça permet vraiment de faire des vraies simulations, de voir vraiment des trucs, avec des systèmes qui ne coûtent pas si cher que ça, quoi. Parce que bon, une carte graphique de jeu, allez, c'est 2000 euros, mais on n'est pas dans des très très gros moyens de recherche, quoi. Voilà. Ouais. Redite, j'ai pas bien entendu. Pardon. Oui. Alors la réponse, c'est oui. Globalement, en fait, il y a globalement deux créneaux d'arrivée des... Il y a deux types de cartes graphiques, globalement. Il y a les cartes graphiques professionnelles, par exemple, je prends chez Nvidia, par exemple. Ils ont des grosses cartes graphiques professionnelles et des cartes graphiques grand public. Et globalement, ils fournissent pas mal sur les cartes graphiques professionnelles, mais globalement, on n'est pas livré à la hauteur de ce qu'on demande. Donc il y a quand même déjà du retard. Et sur le grand public, bah, quand on peut acheter des cartes graphiques en public, ce qui n'est pas toujours le cas, c'est lié au marché public et tout ça, donc on n'a pas forcément la possibilité d'acheter toujours du matériel grand public. Parfois on peut, parfois on ne peut pas. Ça dépend un peu des lignes de crédit. Dans ce cas-là, effectivement, bah, on est confronté, comme tout le monde, à la pénurie qu'il peut y avoir. Ouais. Donc voilà, donc ça vous donne une idée de la représentation des molécules. Donc pourquoi on fait de la mécanique moléculaire et pourquoi on ne fait pas de la quantique surtout? C'est juste parce que bah, c'est trop cher. C'est trop cher, on ne peut pas. Voilà. Donc du coup, ce qu'on fait en mécanique moléculaire, voilà, si je prends le dioxygène, on a deux atomes, un ressort, les atomes ont une masse et une charge, et puis c'est très bien comme ça. On applique du coup, quand on a des masses, des charges et des ressorts, il y a la bonne vieille mécanique de Newton qui marche très bien. Donc voilà, le 17e, c'est super. Et, mais globalement, le 17e, ça marche pas mal, en fait. Paradoxalement, même si ça a l'air très vieux et que ça a l'air très désuet, on va dire, bah en fait, pas tant que ça. Globalement, la mécanique moléculaire, on a des résultats qui finalement sont bien associés aux résultats qu'on a expérimentaux, que peuvent avoir les biologistes, les biophysiciens, les énergies qu'on retrouve avec des champs de force un peu complexes, sur des champs de force très simples. On a des erreurs de l'ordre de 5%, quelque chose comme ça, sur des champs de force très élevés, je dirais plus complexes, où on prend en compte la polarisabilité et tout ça, donc plus intermédiaire, plus proche de la mécanique quantique, on va dire, pour lequel on peut quand même faire des simulations millions d'atomes, on a des erreurs extrêmement faibles, qui globalement permettent d'avoir des prédictions à la kilocalorie près, dans l'ordre de grandeur de 2 kilocalories, donc c'est vraiment très précis. Ouais. Par exemple, quand on fait des mesures d'énergie comme ça, c'est l'écart entre ce qu'on observe comme mesure d'énergie en calorimétrie, par exemple, donc qui est la mesure physique de référence pour calculer pour mesurer des énergies, et ce qu'on calcule avec notre système type champ de force, quoi. Et qu'on a moins de... avec des champs de force un peu évolués, on a des erreurs vraiment faibles, quoi. C'est-à-dire que... en fait, il y a un lien très fort entre la structure et l'énergie, et je vais en parler juste après, donc merci pour la transition. En fait, le champ de force, ce qu'on appelle un champ de force, en fait, globalement, c'est justement la mise en relation entre la structure et l'énergie, globalement. Donc c'est comment on représente en fait les interactions entre atomes. Et donc du coup, si on a une structure dans l'espace, une position dans l'espace des atomes les uns par rapport aux autres, de là on peut dériver en fait une énergie directement en fait. Et donc en représentant de manière individuelle les différentes interactions. Donc je vais vous montrer ça, c'est ce que j'ai mis juste après. Voilà. Donc globalement mécanique moléculaire. On va dire qu'il y a... en fait, globalement, on dit l'énergie du système, c'est la somme de deux grands types d'interactions. Deux grands types d'interactions. Les interactions, on dit liées, entre atomes liés, donc entre atomes qui sont liés par une liaison chimique, et les atomes non liés, c'est-à-dire les atomes qui ne sont pas directement liés par un ensemble de liaisons chimiques. D'accord ? Donc là, par exemple, dans le cas ici, si je prends les différentes interactions possibles liées, les trois mouvements liés globalement qu'on peut faire avec des ressorts, parce que je vous ai dit tout à l'heure que les liaisons chimiques, c'est des ressorts, donc on a des boules rigides liées par des ressorts. Le premier truc naturel, c'est la vibration, ou la flexion, les deux boules qui font comme ça. Après, si on en a trois, on a la flexion, comme ça. Et ensuite, si on en a quatre, on a la torsion, comme ça. D'accord ? Donc avec le rotor qui est à ce niveau-là. D'accord ? Ça va ? Donc ça, c'est vraiment entre atomes liés. C'est vraiment le caractère mécanique des ressorts qui lient les sphères rigides. Et puis à distance, deux boules très très loin en termes d'enchaînement de liaison, mais peuvent être très proches dans l'espace. D'accord ? Là, on peut regarder, comme on a dit tout à l'heure que ces sphères, elles avaient une masse et une charge. En fait, là, c'est l'aspect charge plutôt qui est intéressant. En fait, en fonction de la quantité, du caractère de la charge, positif ou négatif, et de l'intensité de la charge, je pense que vous savez tous que plus ça se repousse, moins ça se repousse, et plus ça s'attire. Et du coup, on va pouvoir aussi calculer l'attraction ou la répulsion à distance de tous ces atomes les uns par rapport aux autres, y compris ceux liés. D'accord ? Donc ensuite, on fait la somme de tout ça. Je ne sais plus si je l'ai mis. Non, je ne l'ai pas mis. Je ne voulais pas vous mettre la forme fonctionnelle d'un champ de force pour pas que vous vous mettiez à pleurer et que vous partiez en courant. Donc du coup, je ne l'ai pas mise. Mais l'idée globalement, c'est que l'énergie de, par exemple, de flexion, par exemple, l'énergie de tension d'un ressort, c'est, je pense que vous avez fait ça, ça doit être au programme du lycée, je crois. Enfin, c'est quelque part dans le lycée. où c'est une constante, la constante de raideur du ressort, fois la différence de la position, la distance d'équilibre du ressort et comment on a tiré ou comment on a comprimé le ressort, et ça au carré. Et donc du coup, ça donne une valeur. Si on, la constante de raideur du ressort, on la connaît, c'est un paramètre. La distance d'équilibre du ressort, on le connaît, c'est un paramètre. Alors, du ressort, c'est-à-dire par exemple pour une liaison carbone-carbone. En fonction de tous les couples d'atomes possibles, on a des valeurs qu'on a dérivées pour le coup de calculs quantiques, de calculs en chimie quantique. Avec ces calculs de chimie quantique, on a des paramètres qu'on a transférés en mécanique moléculaire. Donc du coup, on a utilisé des moyens de calcul et une représentation qui est plus précise pour calculer des paramètres qu'on a ensuite transférés dans le champ de force en mécanique moléculaire, et ensuite on s'en sert comme constante et comme valeur de référence pour ensuite calculer les variables là qui en l'occurrence sont juste la position des atomes en fait en vrai. D'accord ? Ça va ? Ouais ?
En fait, la construction des molécules, en fait, c'est directement lié à la construction des atomes. En fait, on voit que la forme d'un atome, c'est lié justement entre sa stabilité, entre le plus et le moins, qui va lui donner une forme plus ou moins stable et qui va tenir. Une molécule, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'imagine que dans le sens, ça va être plutôt des atomes de carbone, qui ont une structure très stable, et ceux qui sont beaucoup moins stables vont être à l'extrémité.
Alors, en fait, globalement, l'idée, c'est que quand on a un système moléculaire, globalement, donc des assemblages d'atomes, on a plusieurs variables sur lesquelles on peut jouer, globalement. Donc, effectivement, la conformation, donc l'organisation de l'ensemble, pas les liens ensemble, parce que les liens, on ne les touche pas, on a dit en mécanique moléculaire, on ne touche pas les liens. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, on est capable, avec le champ de force, d'aller trouver la structure. Quand je parle de structure, c'est la position dans l'espace des atomes les uns par rapport aux autres, sachant les contraintes qui sont les liens entre eux. D'accord ? Donc ces contraintes, ces liens, je peux un peu les modifier comme ça, comme ça, comme ça, mais c'est tout. D'accord ? Je ne peux pas casser ou briser les liens. Je ne fais pas de chimie. Donc en faisant ces combinaisons-là, en fait, c'est comme si vous, je ne sais pas si vous avez déjà vu des modèles moléculaires boule-bâton, vous avez sûrement déjà vu ça. On a des boules, des bâtons qu'on assemble et on fait des molécules avec. Vous avez sûrement déjà vu ça. Ben globalement, on peut faire des rotations, etc. Et l'idée, c'est ce qu'on fait en simulation. On cherche, alors on ne cherche pas tout le temps, mais un des trucs qu'on fait de manière assez récurrente, c'est trouver le minimum d'énergie, donc qui est a priori l'état le plus favorable, plus stable, on va dire plutôt plus favorable, et qui devrait être le plus observé normalement, puisque a priori, on devrait tendre vers un minimum globalement. Si on simule au cours du temps, on devrait tendre régulièrement vers le minimum. Globalement, ce qu'on fait, c'est que quand on fait une variation d'un des paramètres, l'énergie varie. D'accord ? Donc l'idée, c'est de trouver la combinaison de paramètres qui fait que l'énergie est la plus basse possible. Et donc ça, c'est une opération de simulation qu'on appelle la minimisation d'énergie, qui consiste à explorer l'espace conformationnel, donc les différentes formes possibles que prennent notre molécule dans l'espace, et à chaque forme possible, il y a une valeur d'énergie. D'accord ? Donc à chaque forme possible, une valeur d'énergie, on a un espace conformationnel, et cet espace conformationnel, donc il est directement lié à un espace d'énergie. D'accord ? Donc on a un paysage, on appelle ça un paysage énergétique. Et en vrai, c'est un vrai paysage. Si on regarde le truc dans l'espace, on va voir des montagnes, donc c'est les zones où il ne faut pas aller, on a des vallées, c'est plutôt les zones où on va aller. Et en fait, quand on fait de la simulation, quand on fait de la dynamique moléculaire, c'est-à-dire que globalement, la dynamique moléculaire, c'est toujours c'est la loi de Newton, on fait de l'exploration avec la loi de Newton. Là, qu'est-ce qu'on fait ? On met notre système dans une boîte, on secoue la boîte. C'est vraiment, c'est-à-dire qu'en en fait, on secoue la boîte, globalement, on met de l'énergie cinétique dans le système. Du coup, on fait ce que vous avez fait en physique quand vous étiez petit, probablement. Vous faites le calcul d'énergie, vous faites l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, et vous regardez l'énergie totale de votre système. Et donc, pour avoir, là, on n'a fait que l'énergie potentielle, mais si on rajoute des vitesses, c'est-à-dire que si on secoue la boîte, on rajoute aussi l'énergie cinétique dans le système. Et du coup, le système va évoluer, puisqu'on l'a secoué. Donc, du coup, les molécules vont bouger, vont changer de conformation, et en fait, du coup, en changeant de conformation, en bougeant, elles vont se balader dans le paysage énergétique. D'accord ? Enfin, on va se balader dans le paysage énergétique de la molécule. D'accord ? C'est-à-dire que la molécule en bougeant observe différents états dans le paysage énergétique. D'accord ? Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, globalement, on va se balader de vallée en vallée. Globalement, en schématisant un peu, c'est ce qui va se passer. Donc si on veut sauter, et c'est là après toute la, tout le problème, c'est-à-dire que globalement c'est un problème qu'il y a en physique tout le temps. C'est-à-dire que quand on cherche des minima, donc les endroits où c'est l'énergie est la plus basse, quand on fait de la minimisation d'énergie, on part de quelque part et on suit la pente. Et on descend, et puis jusqu'à ce qu'on arrive en bas. Il y a plein de manières d'arriver en bas, donc il y a plein d'algorithmes de minimisation qui sont des méthodes pour arriver en bas. Mais une fois qu'on est en bas, on est en bas. Et on ne sait pas, si on n'a pas exploré suffisamment l'espace d'énergie, on ne sait pas si on est le plus bas. On sait juste qu'on est en bas de quelque part. Donc on est le plus bas quelque part, mais on ne sait pas si on est le plus bas tout court. Donc pour savoir si on est le plus bas tout court, il faut passer les barrières d'énergie. Donc il faut remonter la pente, aller un peu plus loin et voir s'il n'y a pas un autre creux qui est plus profond. Et ça, ce n'est pas facile. Enfin, il y a plein de moyens de faire, mais un des moyens de faire, c'est par exemple de dire je vais partir d'une forme différente. Donc si je mélange ma forme, je fais une forme différente, je vais être quelque part plus loin, quelque part dans l'espace, pas au même endroit, et je redescends. Et j'espère être à un autre creux, peut-être plus profond, on ne sait pas. Je peux faire de la simulation, je secoue et je regarde. Donc en secouant beaucoup, je me place plus haut dans l'espace, je mets beaucoup de température, je secoue beaucoup, ça fait chauffer. C'est quand on secoue un truc, ça le fait chauffer. Donc je secoue beaucoup, je mets plus de température, donc je me positionne plus haut dans l'espace d'énergie, et je vais comme ça me balader plus haut dans la vallée, globalement. Et donc en me baladant plus haut dans la vallée, je vais peut-être passer des petits cols. Je vais avoir des chances de passer des petits cols, et donc peut-être de me retrouver à la fin dans des creux, j'aurais peut-être exploré des creux plus profonds, parce qu'en mettant l'énergie, ça me propulse. C'est-à-dire, c'est comme si je mettais... vous mettez beaucoup d'essence dans la voiture, vous dites je vais par là, et puis vous allez tout droit. Et puis vous espérez, vous allez regarder par où vous passez, et tant que vous avez de l'énergie, vous continuez à avancer, tout droit, jusqu'à ce que vous arrivez quelque part. Et vous dites que vous espérez que sur le chemin, vous êtes passé par le plus bas. Rien ne dit que c'est le cas. Mais si vous avez testé plein de fois, vous avez mis plein d'essence dans la voiture, vous êtes parti dans des directions différentes, vous dites que peut-être au bout d'un certain temps, et au bout d'un certain nombre d'explorations, vous aurez peut-être tout exploré, ou en tout cas exploré une grande partie. Et donc ça, c'est typiquement ce qu'on fait en simulation de dynamique moléculaire. C'est exactement ça qu'on fait. Ouais. Ouais. En fait, on n'impacte pas la chimie. La molécule, elle ne change pas. D'accord ? En mécanique moléculaire, on ne fait pas de chimie. Donc la molécule ne change pas. Ce qu'on change, c'est la forme de la molécule dans l'espace. C'est-à-dire, par exemple, moi, je suis en conformation assise, par exemple, et je peux être en conformation assise avec les bras bizarres, comme ça, et je peux avoir plein de conformations, et ces conformations, elles sont plus ou moins inconfortables. Probablement que la plus confortable, celle où je suis dans le minimum d'énergie, c'est probablement celle-là. D'accord ? Et l'idée, c'est que je peux aussi courir, je peux aussi mettre debout, etc. Et j'ai des conformations plus ou moins confortables. D'accord ? Et en fait, l'idée, c'est que la vie de la molécule, globalement, dans son... Et ça marche avec tout, hein. Ça marche avec tous les constituants du vivant, toutes les protéines, les acides nucléiques et tout ça, ils sont dynamiques, ils vivent, ils ont de l'énergie, ils se comportent, ils bougent, etc. Et l'idée, c'est qu'en bougeant, ils passent par des états plus ou moins favorables, on dit. Donc globalement, moi, je suis venu ici à pied, de la Cité des Congrès, j'étais à la Cité des Congrès ce matin, et puis je me suis promené, j'ai marché un peu, et puis je suis arrivé ici, je me suis assis sur ma chaise. Et finalement, j'ai observé quelques états stables. Quand je me suis levé ce matin, je suis passé d'un état stable à un état moins stable, je me suis promené un peu partout, j'ai retrouvé un état stable. Mais peut-être que cet état stable, il est moins stable que le précédent. Peut-être quand j'étais allongé, j'étais plus stable. Donc l'idée, c'est qu'en fait, voilà, quand on simule la vie d'une molécule, c'est un peu la même chose globalement. Et l'idée, c'est que d'avoir une information des différents états de basse énergie, de moi assis, moi allongé, moi plus ou moins assis de manière inconfortable, ça me donne une idée aussi de mes... Donc c'est les états a priori dans lesquels je passe le plus de temps, et donc ces états dans lesquels je passe le plus de temps, c'est peut-être ces états dans lesquels j'interagis aussi avec les autres. D'accord ? C'est-à-dire que, et du coup, si j'ai une bonne idée des états avec lesquels, dans lesquels j'interagis avec les autres, ben je peux ensuite commencer à travailler sur l'association entre partenaires, etc. Ouais. Parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a la géométrie d'interaction, c'est intéressant. On appelle ça le docking, globalement. Comme un bateau qui se dock dans un quai. Mais donc, ouais, c'est le processus de docking, c'est ça. Mais on a également la connaissance de différents états conformationnels qu'on observe. Par exemple, pour les enzymes, quand on travaille sur les enzymes, par exemple, les protéines qui catalysent des réactions chimiques, les enzymes, elles ont des formes actives et des formes inactives. Et donc, d'avoir une idée de la transition de la forme active à la forme inactive, c'est intéressant aussi de savoir qu'est-ce qui influence la transition active vers inactive. Et donc, si je mets d'autres trucs dedans, si je mets, je sais pas, des cofacteurs, des charges, du sel, des trucs comme ça, est-ce que ça influence la transition d'état actif vers l'état inactif? Et donc, du coup, tout ça, ça nous permet de mieux comprendre, je dirais, les processus du vivant en général. Et puis, dans un cadre, on va dire, de, entre guillemets, de recherche thérapeutique ou des choses comme ça, ça peut nous aider aussi à savoir quelle forme il faut cibler, qu'est-ce qui modifie, qu'est-ce qui perturbe l'activité de notre produit. Donc il y a plein d'informations qu'on peut tirer en fait vraiment de cette analyse de conformation. Et vraiment l'analyse, enfin je dirais, j'utilise un mot un peu dur, mais on appelle ça l'échantillonnage conformationnel, c'est-à-dire essayer d'avoir une information de l'ensemble des formes possibles et d'avoir une couverture de cet espace possible, ça nous aide beaucoup en fait derrière après pour concevoir des expériences globalement. Là, j'ai répondu à votre question. Ok. Ouais.
Peut-être des questions qu'il faut poser à la fin.
Ouais, mais c'est pas grave.
Mais est-ce que ça veut dire du coup qu'on peut faire de la construction à l'envers d'une molécule, c'est-à-dire pour pouvoir être compatible ou avoir un effet sur notre molécule, créer du coup la molécule qu'on veut mettre en face, donc avoir la forme qu'on veut, et donc arriver à cette forme en déterminant ce qu'il nous faut pour arriver à cette forme?
Alors dans l'idée, c'est de dire de concevoir une molécule qui irait bien en face, quoi, globalement, c'est ça? Alors, ouais, on le fait. Alors, globalement, l'idée, c'est... Il y a plusieurs étapes. Globalement, l'idée, c'est de voir déjà qu'est-ce qu'il y a en face normalement. Parce que peut-être qu'il y a en face des trucs qui vont bien. Ensuite, si en face, ce truc qui va bien, qu'est-ce que ça a comme effet quand les deux sont en face? Et du coup, est-ce qu'il faut perturber l'interaction entre les deux? Est-ce qu'il faut concevoir un truc qui va se mettre à l'interface soit de l'un, soit de l'autre, soit entre les deux? Et donc typiquement, c'est exactement ça qu'on fait dans le cadre thérapeutique, c'est typiquement ça qu'on fait. Et en fait, souvent l'information, elle vient au départ de nos amis biologistes, pharmacologues, cliniciens et tout ça, qui vont nous dire, ah oui, dans cette maladie, par exemple, il y a telle protéine qui est surexprimée, donc il y en a trop, globalement. Donc, dans un état de la vie, il y en a trop. C'est-à-dire qu'il y en a trop, du coup, l'interaction, elle se fait trop souvent. Parce que les interactions se faisant au hasard, globalement, s'il y a beaucoup de... si vous êtes dans le métro, enfin, dans un métro ou dans le tramway à Nantes, parce qu'il n'y a pas de métro, je crois. Donc, du coup, si vous êtes dans le tramway, que dans le tramway, vous voulez donner un courrier à quelqu'un. Mais il n'y a que une copie de vous et une copie de la personne qui reçoit le courrier. C'est pas facile de le trouver dans le tramway qui est plein. Par contre, si vous êtes 1000 fois vous et 1000 fois le récipiendaire du courrier, du coup, c'est plus facile, même s'il y a beaucoup de monde dans le tramway. Donc l'idée, c'est qu'on a toujours des jeux comme ça de concentration. Et donc si la concentration d'un des constituants est très très élevée, ça va favoriser le nombre d'interactions. Et du coup, il y a plus d'interactions qui se font que prévu entre guillemets, que dans l'état pas malade, par exemple. Et donc du coup, on va se dire, si je gênais, on est plus dans l'idée de gêner plutôt que d'empêcher. C'est-à-dire, je vais gêner celui qui porte le courrier, je vais faire, tu passeras pas. Donc il va avoir du mal à aller trouver le destinataire du courrier. Et du coup, on espère comme ça rétablir un processus plus normal, même s'il y a beaucoup de gens qui portent le courrier. L'idée, c'est ça, globalement. Ça va, j'ai répondu à votre question? Ok. Du coup, on va avancer un peu, parce que l'heure tourne, et puis tant pis si c'est pas fini, hein, c'est pas grave, hein, l'important c'est de discuter. du coup, ça c'est pas très important. Bon, globalement, si c'est une autre manière d'explorer l'espace. Tout à l'heure, on a vu la dynamique, vous voyez, je prends ma voiture, je mets de l'essence, et je pars tout droit, et je vois ce qui se passe, et puis je fais, globalement c'est ça. Voilà, C'est exactement ça. Globalement, c'est je prends ma voiture, je mets de l'essence, je suis la vallée, et pou, je me promène et je vais à un endroit. C'est super. Chaque étape, globalement, chaque fois que je compte où je suis, mais où suis-je, je me suis, ça fait quand même, je regarde toutes les 10.15 secondes, donc toutes les femtosecondes, je regarde où je suis, et je note, alors je suis ici. Voilà, c'est super. J'avance un peu, je compte, ah tiens, finalement, je suis ici. Et puis du coup, comme ça, je peux suivre un chemin dans la carte, dans l'espace d'énergie. D'accord ? Ça, c'est la première manière, c'est une des manières d'explorer. En dynamique moléculaire, on fait ça. Globalement, on met de l'énergie, on met de l'essence, on secoue, on y va. Et puis, pour explorer mieux l'espace, bah, je fais ça plein de fois dans des directions différentes, globalement. Alors, idéalement, en fait, en vrai, ce qu'on fait, c'est qu'on ne part pas de la même voiture aussi. C'est-à-dire que globalement, en fait, la voiture, elle a changé. C'est une voiture avec 6 roues, une voiture avec 3 roues, mais c'est toujours une voiture. L'idée, c'est qu'on part de formes différentes de la protéine, qui sont des endroits différents, en fait, dans l'espace d'énergie. D'accord ? Donc, je pars d'endroits différents, je mets toujours plein d'essence, et puis je regarde où je vais, et à force de faire des chemins, j'espère avoir exploré l'ensemble de l'espace. Ok ? Ce qu'on peut faire aussi, c'est ça. C'est globalement, je pars d'un endroit, j'appelle l'Enterprise, je dis Monsieur Spock, téléportation, Monsieur Scotty, téléportation, et je me retrouve à un autre endroit. Et du coup, je note, comme tout à l'heure, ah, je suis là, c'est super. Et je recommence, je me re-téléporte, je renote où je vais, je me re-téléporte, et globalement, Monsieur Scotty, il est sous, et il nous envoie n'importe où. Donc du coup, il nous envoie à plein d'endroits différents, et ce que je regarde, c'est plutôt que de dire, de suivre les vallées, je regarde, est-ce que l'endroit où il m'a emmené, il est mieux ? C'est tout. Donc je me fais téléporter, j'arrive à un endroit, et puis je demande, je regarde si c'est mieux. Est-ce que je suis plus haut ou plus bas que... Sachant que j'essaie d'être plus bas. Donc si je suis plus bas, je suis content. Et donc je le note. Je dis je suis content, je le note. Je suis plus bas, c'est super. Voilà ma nouvelle référence. C'est l'endroit où il faut être. C'est là qu'il faut être. Et si je ne suis pas plus bas, ben, je ne suis pas content et je recommence. Donc ça, c'est le Monte Carlo normal. Alors le Monte Carlo normal, il faut avoir vachement de chance pour trouver un endroit plus bas. Parce que les puits d'énergie sont petits. Donc globalement, soit on fait plein de pas, c'est-à-dire je le fais des milliards de fois, et des milliards de fois je me téléporte et je regarde si c'est mieux. Au début, ça sera souvent mieux, et puis au bout d'un moment, ça sera pas mieux. Parce que globalement, j'aurais trouvé un puits pas mal, et puis bah, tous les sauts au hasard vont jamais m'emmener dans un endroit mieux, et bon, globalement, c'est pas mal, mais c'est pas top. Donc du coup, pour trouver un endroit mieux, il y a des gens qui ont travaillé, donc il y a Metropolis notamment, donc c'est un mathématicien, c'est pas que un film. Et donc Metropolis, ce qu'il a fait, il a mis un critère, il a créé un truc qui s'appelle un critère de lui-même. Son critère de lui-même, c'est en fait je prends pas que quand c'est mieux globalement. Si je regarde si c'est mieux je garde, pareil. Mais si c'est pas mieux, je regarde à quel point c'est pas mieux. D'accord ? Si c'est vraiment pourri, je dis non là vraiment c'est pourri. Mais si c'est pas si pourri, je garde quand même pour voir. Et du coup, en faisant ça, ça me permet d'accepter des endroits dans l'espace d'énergie qui sont pas si mal et qui me permettent peut-être d'atteindre des endroits vachement mieux. D'accord ? Et donc, du coup, j'ai une couverture quand même plus forte de l'espace. Donc, le Monte Carlo Métropolis, c'est une vraie amélioration du Monte Carlo. C'est les années 50, hein. On n'est pas dans... C'est pas un truc hyper récent. Enfin, les années 50 de 1900. Oui, parce que comme maintenant, on est dans les années 2000, c'est pas en 2050. C'est 1953, je crois, Métropolis. Ça va, Métropolis, Monte Carlo et Monte Carlo tout court ? Ouais. Bah, en vrai, non. Globalement, le vrai critère, en fait, globalement, c'est juste que le critère d'acceptation, il change. C'est-à-dire que dans le Monte Carlo normal, le critère d'acceptation, globalement, j'ai une référence, c'est mon mieux. D'accord ? Quand je fais pas Métropolis, je ne prends que ce qui est mieux que ce que j'ai. Quand je ne fais pas Métropolis, globalement, je garde ma référence effectivement la plus basse, mais je vais quand même accepter et je vais quand même faire un chemin alternatif pour aller voir à partir de là où j'étais, où j'ai accepté un peu moins bien. D'accord ? Mais je peux sauvegarder ma référence la plus basse quand même à côté, mais globalement, on ne va pas garder tous les intermédiaires. On va continuer à accepter et on va continuer à accepter les un peu moins bien, et c'est juste l'écart d'énergie qui donne la probabilité d'acceptation, en fait, globalement. Ouais.
Avec le micro, c'est mieux. Ouais. Là, vous parliez de méthode de Monte Carlo, du coup, pour optimiser un peu les recherches, etc. Est-ce que vous utilisez d'autres techniques un peu plus avancées que celles-là, genre,
bien sûr.
Je pense à des trucs genre de recuit simulé ou des trucs
bien
comme
sûr,
ça.
Bien sûr.
On utilise
des gradients conjugués, les recuits simulés. D'accord. Globalement, je vous donne des exemples hyper simples. L'idée, c'est on est dans une. L'idée, c'est grand public. Donc non, bien sûr, on utilise globalement toutes les méthodes d'optime, on les a, quoi. Enfin. Évidemment, le recuit simulé, le gradient conjugué, il y a plein de méthodes d'optime. Il y a plein de gens qui font ça très bien. Et nos amis de recherche opérationnelle font ça très bien en informatique et on bosse avec eux justement pour ça. Ouais.
Ça, ce que vous décrivez, c'est pour une molécule toute seule, en fait, en dehors de toutes les interactions qu'il peut y avoir autour. Ou alors vous pouvez prendre en compte le fait qu'il y a dans une paroi, par exemple, une membrane, plein de choses autour avec lesquelles la molécule va interagir.
Alors, ouais, on peut. Alors, pour le Monte Carlo, on le fait souvent pour une molécule dans son environnement. Et dans ces cas-là, l'environnement ne le modifie pas beaucoup. Mais en dynamique moléculaire, on peut faire des milliers de constituants. Quand on fait des systèmes millions d'atomes, là, typiquement, c'est la molécule qui nous intéresse, et puis de l'eau, et puis des constituants à côté, puis du sel, et on mélange tout, et on regarde. Globalement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la somme des interactions entre atomes, de tous les atomes avec tout. Donc c'est tout contre tout. Globalement, on fait tout contre tout à chaque pas. Ouais, c'est le système complet. On fait vraiment le système complet. Ouais. Et après, on extrait du système les constituants qui nous intéressent. On regarde spécifiquement les constituants qui nous intéressent. Mais on simule tout. Et on simule les interactions de tout avec tout. Alors du coup, quand on met de l'eau, alors, quand on est en représentation très très fine, genre quantique, les effets de solvant, ils sont de fait. Mais là, en mécanique moléculaire, donc on doit mettre des molécules d'eau explicitement, enfin en quantique aussi, mais là l'idée c'est qu'on les met explicitement, et on simule aussi les molécules d'eau. Et en fait, quand on veut avoir une boîte d'eau assez grande pour que notre système il ait une vraie solvatation qui ressemble un peu à la réalité, en fait le gros des interactions qu'on calcule, c'est les interactions de l'eau avec l'eau, ce qui ne nous intéresse absolument pas globalement. Mais malgré tout, c'est peut-être 95% des interactions qu'on calcule. Parce qu'en fait, il faut beaucoup de molécules d'eau pour avoir une couche de solvatation suffisamment grande. Et ça fait mal au cœur, mais c'est la vie. Voilà. C'est 95 ou 99% des interactions qu'on calcule. C'est de l'eau contre de l'eau. Et globalement, bon, je ne dirais pas qu'on s'en fout, mais pas loin. Parfois, c'est intéressant, mais les premières couches de solvatation, c'est intéressant. Mais ce qui nous intéresse, c'est les interactions de l'eau avec notre molécule et de ce qui se passe à l'intérieur de la molécule, globalement. OK ? Ok, bon, j'avance un peu. Donc la dynamique on a fait, lui on a fait, et voilà, donc ce qu'on a dit tout à l'heure, voilà, globalement, c'est que là, par exemple, ici, vous avez un complexe entre trois protéines, alors que vous ne les voyez pas peut-être de manière très simple là. Je vous ai mis en couleur, c'est le potentiel électrostatique à la surface, donc le bleu c'est plus, le rouge c'est moins, le blanc c'est ni rouge, ni plus, ni moins. Et l'idée, c'est voilà, avec une molécule, on dit par exemple une petite molécule, d'essayer de perturber l'interaction du complexe. Et donc c'est ce genre de choses qu'on fait. Je ne sais pas quelle heure il est. Midi. Oh, on a encore du temps. Quand même. C'est 12h30 la fin, c'est ça? Ok. Bon, je vais pas dépasser, j'ai l'habitude. Mais l'idée, c'est... on s'arrête quand on s'arrête. L'idée, c'est pas non plus voilà, de déborder trop. Donc là, je voulais vous montrer un truc qu'on avait fait. Donc ça date un peu, c'était 2014, qu'on a fait la première version. Et l'idée, c'était d'utiliser, en fait... comment dire ? Globalement, l'idée, c'était de faire au départ, l'intention, on va dire, première, c'était de voir si c'était possible de faire de ludifier ou de gamifier, terme qu'on emploie des fois aussi, la simulation de l'interaction entre deux molécules, donc ce qu'on appelle le docking. Donc c'est simuler la géométrie de l'interaction entre deux molécules. Et on est parti du fait qu'en fait, globalement, nous les gens, on est capable de faire de la reconnaissance de forme de manière assez intuitive. Et je pense que tous vous avez remarqué ça dans votre vie, je pense, c'est que par exemple, là on est dans une salle, on se ressemble tous globalement, à peu près tous la même taille, en termes d'ordre de grandeur de taille, hein, mais on est tous de l'ordre de grandeur du mètre, on a tous à peu près une forme qui se ressemble avec une tête, des bras, des jambes, on a tous plus ou moins des yeux, des sourcils, machin, et globalement, des cheveux, plus ou moins, etc. Mais en fait, si vous comparez vous à des tables, des chaises, des speakers ou l'écran, bon, vous avez une forme quand même, vous ressemblez tous globalement. Et malgré tout, même si vous vous ressemblez tous, vous êtes capable de reconnaître immédiatement quelqu'un que vous connaissez. Mais immédiatement. C'est-à-dire qu'il y a pas, vous ne dites pas, cette personne, elle me dit quelque chose. Globalement, vous reconnaissez immédiatement les gens que vous connaissez, vous les reconnaissez immédiatement et vous ne réfléchissez même pas. La reconnaissance des informations complexes, de la forme et du visage, etc., vous arrivez à voir ça tout de suite. Alors, encore plus, ce qui est assez c'est frappant, vous pourrez réfléchir chez vous après, mais le fait, par exemple, que même d'une même personne, vous êtes capable de saisir parfois des attitudes. Dire, il a l'air énervé, ou elle a l'air triste, ou il a l'air triste, ou il a l'air, je sais pas, enfin, j'en sais rien, enfin, des émotions que vous connaissez, que moi je connais pas. Enfin, en tout cas, là j'en trouve pas comme ça sur le moment. Mais l'idée, globalement, vous êtes capable de voir des variations émotionnelles sur votre interlocuteur, votre interlocutrice. Et ça, mine de rien, c'est quand même pas évident. Enfin, en termes de traitement d'image, on va dire, bon courage pour le faire, on va dire, en simulation. Donc, globalement, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que l'interaction de protéines, ça fait intervenir globalement deux trucs. La complémentarité de forme et la complémentarité, on va dire, de couleur. Donc là, c'est de charge, en fait. C'est-à-dire que l'idée, c'est de mettre du rouge contre du bleu et des creux contre des bosses, globalement. Et on s'est dit, bon, bah, comme nous, on est vachement fort pour faire ça, probablement que les humains, ils peuvent le faire. Donc on va demander à des humains de faire ça avec un outil très simplifié, une méthode, des techniques de manipulation très simples. Et donc, on a fait ça, donc mon équipe, avec une équipe de jeux vidéo au CNAM. Parce qu'au CNAM, on a un institut qui s'appelle l'Engmin, peut-être que vous connaissez, qui est l'école nationale du jeu et des médias interactifs numériques, qui est à Angoulême, qui est l'école publique du jeu vidéo. Et donc, mon copain Guillaume, qui est l'étage en dessous dans mon bâtiment, c'est lui qui fait les cours de programmation à l'Engmin. Donc, du coup, on s'est dit, bah, c'est super, on va bosser ensemble, on va faire des trucs rigolos. Donc l'idée, c'était de dire, bah, voilà, est-ce qu'on est capable de faire ça? Et donc, on s'est dit, après, du point de vue de la théorie du game design globalement, ça met en jeu des déclencheurs de motivation qui sont globalement le challenge et la curiosité. Parmi les différents déclencheurs de motivation, je vous invite à lire le papier de Malone dans Cognitive Science qui a été publié en 81 là-dessus. Et ça colle assez bien avec une définition attribuée à Nolan Bushnell, je ne sais pas si elle est vraie, mais en tout cas on l'utilise tout le temps, qui aurait dit, donc Nolan Bushnell, c'est le fondateur d'Atari, qui est une société de jeux vidéo dont vous avez peut-être entendu parler, surtout les plus anciens d'entre nous, parce qu'elle a disparu. Mais à l'époque, dans les années 80, c'était les années 70 et 80, c'était le Electronic Arts de maintenant. Voilà. Ouais. Ils sont pas morts, Atari? Ah, ils se sont fait racheter? Ok. Bon, peut-être que la marque existe encore, mais le... Ouais, c'est ça, ils étaient morts, ouais. Oui, ils sont tués avec la Jaguar, et puis je ne savais pas que ça avait été racheté, donc du coup, vous connaissez peut-être Atari, qui est encore vivante, qui renaît de ses cendres, donc Nolan Bushnell, c'était le fondateur d'Atari à l'époque, dans les années 70, et donc il a dit que ce qui fait un bon jeu, globalement, il aurait dit que c'est basé sur une tâche, en fait, qui est très simple à apprendre, et qui est hyper dure à maîtriser. Alors c'est un peu simpliste, mais en fait c'est pas si idiot. Si vous y réfléchissez, peut-être les bons jeux que vous avez faits. L'idée, c'est vraiment une prise en main, une usabilité immédiate. On arrive assez vite à faire des trucs, mais à bien le faire et arriver au bout, c'est pas évident. Et en fait, globalement, c'est vraiment le. Pour moi, ça met en jeu en fait le levier qui est pour moi le levier essentiel du jeu vidéo. Et c'est pour ça que ça m'intéresse et c'est pour ça que je veux intégrer ça dans les outils qu'on développe pour les collègues. C'est l'usabilité, le levier. C'est-à-dire que en fait, le jeu vidéo, je pense, à mon sens, c'est un des milieux industriels où l'usabilité, c'est le critère numéro un. C'est-à-dire la prise en main, l'accessibilité. Parce qu'en fait, un jeu, aussi bien qu'il soit, si on n'arrive pas à le prendre en main immédiatement, on ne va pas y jouer. Et donc, du coup, ça va être un échec. Ça va être naze. Donc, vraiment, la prise en main, l'usabilité, en fait, je pense qu'on a beaucoup à apprendre des gens qui font du jeu vidéo de ce point de vue-là pour créer des meilleurs outils. Et donc... c'est le postulat de, globalement, ce que fait une partie de mon équipe depuis presque 10 ans maintenant, sur développer des meilleurs outils pour la science, enfin pour les collègues scientifiques. Globalement, les outils professionnels, vous en utilisez sûrement tous, ils sont en général pas usables du tout. C'est vraiment horrible, quoi. Pour ce... Et je parle de tous les outils professionnels que vous pouvez avoir, en parlant, je sais pas, de Premiere, Photoshop, je sais pas quoi. Si vous les utilisez pas tous les jours, c'est l'enfer. Si vous voulez revenir à l'utilisation après pas l'avoir utilisé pendant une semaine, vous vous rappelez plus d'où sont les trucs, ça, enfin, c'est horrible. Et l'idée, c'est justement d'essayer de s'affranchir de ça le plus possible. Et je crois que, pour le coup, le domaine industriel où ils ont réussi, ça, quand même, c'est le jeu vidéo. Donc je pense qu'on a beaucoup à apprendre, les développeurs d'outils et les développeurs de solutions, je dirais, pour aider les gens de ce domaine industriel-là. Donc voilà, c'est un peu mon motto depuis 10 ans. Quoi. Voilà. Donc globalement, on a fait ça. Et puis, bon, je vais passer un peu, mais globalement, on a intégré des bouts de champ de force de mécanique moléculaire dedans pour avoir une valeur de score, juste avoir une valeur numérique. Et puis, on a intégré un moteur de collision qui s'appelle Boulette, qui est utilisé dans le jeu vidéo et dans le cinéma pour calculer les tout ce qui est collision entre objets, globalement. Donc, on a généré un maillage, à partir de la surface de la protéine, on a généré un maillage. On a généré un maillage de collision, une boîte de collision à partir de ce maillage, et du coup on manipule à partir d'un moteur de jeu, enfin de moteur de jeu ou de film pour gérer des collisions, justement ce système-là. Donc avec un système de ressort et de grappin. Donc je vais vous montrer globalement comment ça marche. On a mis une petite vidéo. On a fait un son un peu sympa pour enfin un truc un peu immersif, un peu une ambiance un peu sympa. Donc voilà, l'idée c'est que on choisit les protéines qu'on veut assembler. On était parti de 8 au départ, donc de 8 couples, et l'idée c'était de retrouver les couples. Donc qui s'associe avec qui et comment. Donc le truc calculé à la volée, la surface, les couleurs, les maillages et les trucs de collision. Et donc voilà, donc on a nos deux objets qu'on peut manipuler à la souris globalement. On a fait un truc low cost, on voulait pas utiliser de bras haptiques, de device compliqué. Globalement, c'est clavier souris ou sinon manette Xbox aussi, parce qu'on en avait, que c'était marrant. Et puis parce que c'est usable, qu'il y a un retour haptique. Enfin, donc il y avait quelques petites idées un peu sympas avec la manette de jeu. Et donc l'idée, c'est que voilà, on pose un bout de grappin d'un côté, un bout de grappin de l'autre. Donc là, ça fait une petite boule verte. Voilà, on pose une petite boule verte d'un côté. On dit tiens, là, ça a l'air bien, on va le mettre avec ça. Pouf, pouf, on fait la même chose de l'autre côté. On appuie sur espace, ça tire. Et on a l'énergie en haut qui est calculée en temps réel. Donc du coup on assemble les deux et puis on se dit tiens là c'est pas mal, je veux optimiser, et là on utilise un gradient conjugué pour les messieurs du fond, et donc on fait une optimisation en gradient conjugué, et donc quand c'est mieux ça fait un feu d'artifice, et voilà, ça fait des feux d'artifice et c'est rigolo. Et donc du coup l'idée c'est comme ça, donc voilà, petite optimisation, boum, un feu d'artifice, voilà. Et avec, donc on a un retour motivationnel sonore et graphique pour justement modifier. Voilà, globalement voilà l'idée quoi. Donc on a fait ça avec des gens, donc on a été chercher des gens qu'on avait autour de nous, c'est à dire globalement les doctorantes des labos à côté. Donc et puis les gens avec qui ils avaient envie de discuter, donc ça faisait au global on a eu au total une centaine de personnes qui a participé à l'expérience. On leur a fait des petits questionnaires aussi. Il y en a une quarantaine qui a passé plus que 5 minutes sur l'outil, une douzaine plus que 30 minutes. Et en fait, ce qu'on a observé, c'est que donc on est parti de 8 complexes, enfin de 4 complexes, donc de 8 protéines, donc des coupes de protéines qu'on sait que ça s'assemble comme ça, et on a la forme de comment ça s'assemble. Et on a tout mélangé et on a dit, ben voilà, vous regardez les 8 contre les 8 et vous regardez ce que vous pouvez faire. Donc aussi les complexes du même contre le même. On leur a pas dit qui était qui, ils devaient trouver tout seuls. Et globalement, ce qu'on a observé, c'est que comme ils mettent des grappins sur les zones qui semblent être complémentaires, enfin en tout cas intuitivement, ils ont commencé par faire ça, ce qui pour nous était plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'ils avaient compris l'idée. Parce qu'on leur a rien dit, hein, globalement, on leur a juste dit, vous mettez le rouge contre le bleu, les creux contre les bosses, démerdez-vous. Et on leur a pas expliqué la physique, on leur a pas expliqué derrière les modèles qu'il y avait, tout ça. Donc on leur dit, voilà, juste débrouillez-vous comme ça. Et globalement, on a suivi où ils mettaient les grappins, et en fait, on s'est rendu compte que là où il y avait le plus de grappins, c'était les zones d'interaction. Donc déjà, on était contents. Pour nous, c'était super. Enfin, c'était super. Intuitivement, les gens ont exploré plus les bonnes zones que les mauvaises zones. Et pour la moitié des couples, ce qui est, ça a l'air nul comme ça, mais en fait, c'est beaucoup, parce que c'est tout contre tout, donc il y a beaucoup de faux couples en fait. Donc pour la moitié des vrais couples, pour deux couples sur les quatre, ce qui représente une proportion quand même finalement importante de l'ensemble de l'espace exploré, ils ont le meilleur score avec le partenaire expérimental. Donc ils identifient qui est le bon. Et ça, c'est quand même vachement bien. Parce que c'est, je rappelle qu'on a fait tout contre tout. Donc ça veut dire que pour la moitié des objets, ils trouvent le bon partenaire. Ils ont le meilleur score avec le bon partenaire, avec le partenaire expérimental. Ils sont capables d'identifier en mélangeant tout qui va avec qui. Et où ça va avec qui ou qui va avec qui où. Donc c'était plutôt pas mal. Donc on a fait cette expérience-là en 2014. On a fait un joli papier dans les discussions Faraday, qui est un journal de la Royal Society of Chemistry. Et donc, au départ, on avait vraiment un aspect, on va dire, jeu sérieux, entre guillemets, serious game, dans le truc. Et donc, on a essayé de faire, globalement, d'articuler le jeu, la recherche, la formation, et d'essayer de faire les trous en même temps. Et bon, globalement, donc voilà l'idée de ludifier une tâche sérieuse. Donc là, c'est ce qu'on a essayé de faire, de rendre le truc ludique, de rendre le truc sympa, et tout ça. Il y a plein d'autres jeux sérieux scientifiques qui existent. Je vous en ai mis quelques exemples là. Mais bon, faut pas se mentir. Quel est le retour ludique? Bon, même si c'était mon... c'est un peu... J'étais content, on l'a designé ensemble et tout, on était content, mais malgré tout, bon, on s'amuse pas beaucoup quand même. c'est sympa, c'est on l'utilise chaque année en fête de la science, les gamins, ils aiment bien y jouer, ils aiment bien l'utiliser et tout, mais malgré tout, entre ça et Call of Duty ou ça et FIFA, bon, ils vont préférer Call of Duty ou FIFA globalement. Faut pas se leurrer. Donc, en termes de jeu, je dirais que globalement, c'est quand même un échec en termes de jeu, clairement. Et je dirais qu'en fait, en vrai, est-ce que le jeu sérieux, globalement, de la manière dont il est abordé, en tout cas, je pense qu'il oublie l'essentiel de ce que c'est le jeu sérieux, c'est le jeu en fait en premier. Le but, c'est évidemment de rendre sérieuse une tâche, de ludifier la tâche, la rendre plus accessible et tout ça, ok. Mais je pense qu'on se concentre trop sur la tâche et pas assez sur le jeu, globalement. Ouais.
Après, ce qui est aussi un problème, c'est que le jeu vidéo a été beaucoup démocratisé comme un divertissement.
Ouais.
Et pas assez comme une solution ludique pour.
Bon, après, est-ce qu'on joue pas pour se divertir quand même, globalement? Quand on joue, le principe de jouer, est-ce que c'est du divertissement? Ouais. Alors, là, je pense que du coup, c'est intéressant d'aller voir la typologie des joueurs, en fait, parce qu'il y a des joueurs qui s'amusent vachement en jouant à Myst, parce qu'en fait, ce qui leur plaît dans Myst, alors c'est pas que réfléchir, c'est aussi l'aspect exploration. En fait, dans Myst, ce qui était cool aussi, moi, je me suis un peu ennuyé dans Myst. Mais effectivement, Myst ou ce genre de jeu, ou les jeux cryo, si vous prenez à l'époque les jeux cryo, Versailles, je sais pas quoi, Égypte et tout ça, c'était des grands jeux vides. Je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui connaissent, c'était des grands jeux vides, mais ce qui était cool, c'était explorer. C'était aller voir les différents espaces. Et en fait, il y a des joueurs où, eux, ce qu'ils aiment bien, c'est explorer. Il y a des joueurs, ce qu'ils aiment bien, c'est battre un score. Et en fait, globalement, ces joueurs, je dirais pas qu'ils se voient jamais, mais quasiment. C'est-à-dire qu'ils vont pas jouer du tout au même jeu, ils vont pas avoir le retour ludique sur les mêmes jeux, et s'ils jouent au même jeu, ils vont pas faire les mêmes choses. Là, j'ai vu une thèse, par exemple, chez mes camarades du jeu vidéo d'en dessous, dans mon bâtiment, pas ici. Et en fait, mes camarades du jeu vidéo, c'était une thèse chez Ubisoft à l'époque, et ils avaient analysé les données de, je sais plus combien, de 10 000 joueurs de Far Cry 4, je crois, ou quelque chose comme ça. De mémoire, c'était Far Cry 4 ou Far Cry 5, je sais plus. Donc un jeu de tir à première personne, beaucoup de joueurs, et un monde un peu ouvert. Et globalement, il y avait des joueurs qui allaient au bout du jeu, et en fait, ils avaient des décrochages, il y a des joueurs qui arrêtaient, qui abandonnaient le jeu en cours de jeu, ils n'avaient pas fini. Ils se demandaient pourquoi les gens décrochent. Parce qu'ils disaient quand même, niveau business, c'est pas cool que les gens décrochent, donc on aimerait bien qu'ils jouent plus longtemps, qu'ils achètent des trucs et tout ça. Et en fait, ce dont ils se sont rendus compte, c'est que les gens décrochaient, apparemment, j'ai pas joué, donc, mais de ce que j'ai compris suite à la présentation de la thèse, c'est qu'en fait, au fur et à mesure de la progression du jeu, on débloque des armes, globalement. Et je sais pas, au début, ils ont un pistolet, après ils ont un fusil, après ils ont un arc, je sais pas quoi, et puis en fait, les gens décrochaient après avoir eu l'arbalète. Donc les gens se disaient, ah, peut-être que c'est l'arbalète, c'est nul, et que du coup, ils n'aiment pas l'arbalète, et en fait, ils en ont marre, ils arrêtent le jeu. Et en fait, il se trouve qu'en creusant un peu le truc, donc déjà, bon, l'arbalète, visiblement, c'était pas terrible, mais que c'était pas ça la raison. C'est qu'en fait, c'était une coïncidence du moment où ils avaient l'arbalète et du moment où ils avaient exploré toute l'île. Et qu'en fait, du coup, probablement, les joueurs qui avaient, où leur motivation principale, c'était l'exploration et de voir un peu tous les paysages possibles qu'il y avait dans ce monde ouvert, ben, ils disaient, là, c'est bon, c'est fini. Et ben, je décroche. Ça m'intéresse plus. Et ils n'étaient pas du tout dans l'idée de finir le jeu, de... Eux, ils voulaient voir, ils voulaient explorer le monde. Ouais. Non, c'est bon, ok. Et en fait, je pense que prendre en compte la typologie des joueurs, là, en l'occurrence, c'était... ils se sont rendus compte bon, d'un truc qui est connu, mais malgré tout, ils ont réussi à identifier peut-être un lien entre le décrochage des joueurs et une typologie de joueurs. Mais je trouvais que c'était intéressant, en fait, en termes de compréhension, d'aller vers l'outil, d'utiliser l'outil, puis de pourquoi ils décrochent de l'outil. Et donc, nous, c'est ce qu'on... Donc, moi, je dirais en tout cas que, de ce point de vue-là, nous, on a un peu raté. On a fait de notre mieux, on a fait des trucs rigolos. Je ne vous ai pas montré, on a mis un vaisseau aussi... Parce que c'est marrant d'avoir un vaisseau spatial qui navigue dans les protéines. D'ailleurs, les joueurs, ils ont trouvé ça cool aussi. Mais au final, bon, ils y passent pas des plombes, quoi. C'est-à-dire qu'au bout de 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, ils arrêtent et ils reviennent pas. Et du point de vue jeu, en fait, je pense qu'on a raté. Moi, je connais un bon exemple de jeu, j'en connais un. J'ai pas mal creusé. En fait, finalement, pour l'instant, j'en ai trouvé qu'un. Si vous en connaissez d'autres, des biens, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Moi c'est celui que j'ai trouvé bien. Donc The Typing of the Dead, c'est fait par Sega, c'est pas n'importe qui dans le monde du jeu vidéo, donc ils s'y connaissent un peu, ils ont eu plutôt une bonne expérience, et en fait ils ont détourné un de leurs propres jeux qui s'appelle House of the Dead 2, qui est un jeu de tir en arcade avec des fusils sur le système Naomi, et qui existe aussi sur Dreamcast, qui est le portage de la Naomi sur console de salon. Et globalement, c'est un jeu pour apprendre à taper à la machine. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Voilà.
How could anyone do this?
En gros, c'est exactement le jeu de base. Les zombies, il y a des mots au-dessus. Il faut taper les mots sans se tromper. Et en tapant les mots, on leur tire dessus. Donc, ça tire quand on tape les lettres, quoi, globalement. Et... En fait, pour apprendre à taper à la machine, ça marche vachement bien. C'est-à-dire que... Et en fait, on s'amuse quand même vachement aussi. C'est-à-dire que le jeu est vachement bon, c'est un vrai bon jeu. Et la ludification de la tâche, elle est complètement réussie. Et à la fin, l'objectif qui est d'apprendre à taper vite à la machine, c'est réussi. C'est-à-dire que plus on progresse, plus les mots sont longs, plus les mots sont compliqués, plus il y a de zombies avec des mots compliqués à taper. Et donc du coup, on vise pas... En fait, on choisit le mot qu'on tape, ça permet, c'est équivalent à viser. Et ensuite, il faut taper le mot sans se tromper, parce que sinon... L'arme s'enraye, il faut retaper le mot, donc du coup, on tue pas le zombie. Et en fait, ça marche hyper bien. On apprend vraiment à taper vite. Et donc, du coup, pour moi, ça, c'est un vrai succès d'un jeu sérieux, c'est-à-dire de ludifier une tâche et que jouer au jeu, ça nous fait progresser dans la tâche et que derrière, on s'amuse et on y retourne. Donc, clairement, là, l'objectif est rempli, mais j'en connais pas 50 des jeux comme ça. Bon, à ma connaissance, il y en a un. Enfin, moi, j'en ai pas vu d'autres, en tout cas. Donc là, pour nous, clairement, pour Udoc, bon, je pense que le retour... Ouais.
En fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien qu'ils ont fait la démarche inverse. En fait, d'avoir un jeu qui est ouais. Critique, et ensuite de venir y intégrer ce que les gens veulent, que les personnes apprennent. Ce qui fait qu'en fait, on apprend en s'amusant et donc sans s'en rendre compte.
Ouais.
La démarche inverse, de dire voilà le matériel qu'on veut apprendre, éducatif, et créer un jeu autour, et en fait, c'est grossier et
clairement. Et en fait, je pense que globalement, il y a beaucoup de gens qui vendent du jeu sérieux. Enfin, qui vendent. Comment dire? C'est pas bien de dire. Bon, globalement, voilà. Qui vendent du jeu sérieux. Et en fait, on est plus dans le logiciel éducatif, un peu ludifié vite fait. C'est-à-dire que pour ceux, pareil, qui ont connu, il y avait Adibou. C'était l'enfer. Je pense que. Avec les parents qui disaient « C'est un jeu vidéo, vas-y, joue à ça, voilà, super !» À côté, on avait Zelda, au fond, on avait des vrais jeux, et d'avoir l'espèce de... Adibou, c'était l'enfer, et globalement, on est plus dans le logiciel entre guillemets ludo-éducatif, avec beaucoup éducatif et pas beaucoup de ludo, que vraiment un jeu qui permet d'apprendre des choses, quoi. Et donc voilà. Donc nous, on est parti du coup vers vraiment l'outil interactif. Dire que, en fait, cette expérience, finalement, dans la tentative de faire du jeu sérieux, nous a appris que l'usabilité, c'était essentiel. Bon, on le savait déjà, mais en tout cas, ça nous a confirmé que l'usabilité, c'était essentiel, et qu'en fait, bon, plutôt que d'essayer de faire un bon jeu, nous, on s'est dit, on va essayer de faire des bons outils. Et donc, du coup, on est parti dans le développement d'outils pour les communautés de collègues. Et donc, j'ai passé ce qu'on a fait. Globalement, on a travaillé sur les caméras, on a travaillé en termes d'interface, et je vais vous montrer un peu où on est arrivé. Donc là, ça, c'était le petit vaisseau, donc c'est rigolo, voilà. Mais c'était pas ça que je voulais vous montrer. En fait, maintenant, on est arrivé à développer un outil qui s'appelle VTX, qui est un outil de visualisation de molécules, globalement. Et le but, à terme, c'est faire de l'illustration, des films, mais facile pour les collègues, parce qu'en fait, faire des illustrations de molécules, globalement, c'est compliqué. Et en fait, moi, globalement, j'ai plein de gens qui viennent me voir, des collègues biologistes ou chimistes, qui viennent me voir, « Ah, tu peux pas me faire une image de ma molécule, c'est super. » Et eux, ils savent exactement ce qu'ils veulent voir, comment ils veulent le voir, etc., les couleurs qu'ils veulent et tout, mais juste, ils n'arrivent pas à le faire. Et globalement, mon apport en tant que scientifique là-dedans, il est super léger. C'est comme si vous... Si, je sais pas, si je vais voir un graphiste qui est un graphiste professionnel, je lui dis, tu veux pas me détourer ma photo pour que je la mette sur un autre fond? Bon, pour lui, c'est nul comme tâche, quoi. Enfin, on va pas du tout chercher sa compétence de graphiste, on va juste chercher sa compétence, il est capable de faire un détourage de photos sur Photoshop, quoi. Et globalement, c'est la même chose. Et en fait, moi, ça me gonfle, parce que je me dis, mon apport scientifique, il est nul, j'ai passé 2 heures à faire ça, alors je pourrais répondre à des questions scientifiques, en fait. Donc l'idée, c'était de fournir aux collègues des outils qui leur permettent de le faire et qui prennent en main tout seul. Et donc... Donc voilà, c'est vers ça qu'on est parti. Alors, on a fait un peu ce qu'on pouvait. Donc voilà, on a développé... Bon, là, c'est un gros moteur. Donc, globalement, l'idée, c'est qu'on est capable d'afficher des gros machins. Donc on a développé un moteur puissant, globalement, pour afficher des gros systèmes. Et l'idée, c'est qu'on a travaillé sur l'usabilité dans les gros systèmes. Donc faire de la navigation, et donc notamment d'utiliser des outils de navigation qu'il y avait plutôt dans le jeu, pour faire de la navigation dans les gros systèmes, et derrière de pouvoir faire des illustrations dans les gros systèmes, etc. Donc on est parti au départ là-dessus. Donc pour vous donner une idée, par exemple, là, c'est la navigation dans la capside du HIV, le virus du sida. Donc là, du coup, on a une navigation dynamique. C'est une capture de juste la navigation à la souris, hein, au clavier souris. Et donc ça permet vraiment de voir l'immensité, d'essayer de vraiment naviguer dans des gros, gros systèmes. Là, on a 2,5 millions d'atomes dans le système. Et l'idée, c'est de pouvoir faire ça, mais avec des systèmes à 15 millions, 20 millions, 50 millions, 100 millions d'atomes. Donc là, ça, c'est fait sur mon portable, ça, avec la capture. Et donc là, par exemple, on a fait ça avec la spike du Covid, la protéine qui est l'espèce de pic qui est à la surface du Covid. Donc on a fait une petite illustration pour... On a eu des moyens de calcul pour faire des simulations dessus. Du coup, on a fait une petite animation avec un peu de lumière sympa et tout. Donc voilà, du coup, c'est le genre d'illustration qu'on peut produire. Et en fait, faire ça avec l'outil, ça prend 20 minutes à faire, globalement. Donc, du coup, les chimistes, tous les collègues, en fait, ils peuvent utiliser l'outil pour faire des illustrations un peu sympas, avec un rendu un peu stylé et tout. Ça leur change. Enfin, l'idée, c'est de leur leur changer la vie de ce point de vue-là, quoi. Voilà. J'ai un peu accéléré sur la fin, mais l'idée, c'était un peu de vous montrer les enjeux globalement de la simulation générale, les enjeux du domaine un peu, et puis vous montrer un peu le boulot qu'on a dans l'équipe, au labo et puis avec les collègues. Voilà. Je vous remercie.
Futur, littérature, cybernétique, avenir, prospective, science-fiction, liberté, utopie.
Face any future.
Any future. Any future.
Le podcast des Utopiales. Utopiales 2021.